en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Personnage, personnalité, caractère, le meilleur et le pire. Ce fut le thème décliné tout au long de l'année 2003 à travers les communications proposées par l'Académie des sciences morales et politiques dans le cadre de son année de travail académique. Chaque lundi, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication en séance à 15h, séance publique. Et le lundi 19 mai 2003, l'ancien directeur général de la Bibliothèque nationale de France présentait une communication intitulée « La BNF, vieille dame, grande dame ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Passion, colère, sérénité, tels sont bien les trois sentiments qui se sont succédés dans l'esprit du public à l'égard des destinées récentes de la Bibliothèque nationale de France. La passion d'abord. Comment ne pas la partager à l'égard d'un des trésors les plus anciens et les plus riches de la nation française ? Sa première collection de manuscrits est constituée par Charles V au château du Louvre au milieu du XIVe siècle. Louis XI la reconstitue après que les Anglais s'en sont emparés et les ont dispersés pendant la guerre de Cent Ans. François Ier l'installe à Fontainebleau, tandis que les premiers livres imprimés, les incunables et les merveilleuses reliures de la Renaissance commencent à s'y accumuler. Et puis, François Ier, par son ordonnance de Montpellier de 1537, donne ordre aux éditeurs et aux imprimeurs de déposer un exemplaire de tout ce qui se publie auprès de ce qu'on appelle alors la Bibliothèque royale. C'est le début du dépôt légal qui va faire la fortune, dans tous les sens du terme, de la Bibliothèque nationale. Colbert, par l'achat de nombreuses bibliothèques, notamment de bibliothèques étrangères, en fait une des plus belles bibliothèques du monde. Et en 1721, elle prend ses quartiers pour trois siècles dans un grand quadrilatère qui est aujourd'hui situé rue de Richelieu. Près de trois siècles plus tard, donc, une partie de ses collections s'y trouve encore. Il s'agit de ce qu'on appelle les collections spécialisées, c'est-à-dire principalement les manuscrits, les estampes, les photographies, les cartes et plans, les modèles et médailles, les documents musicaux, etc. En revanche, comme vous le savez, les livres imprimés n'y sont plus. Ils ont été déménagés dans l'est de Paris, sur le site de Tolbiac, dans un nouveau et très vaste bâtiment construit par l'architecte Dominique Perrault. La nouvelle bibliothèque a été décidée par le président Mitterrand au début de son second mandat, et c'est là que l'on retrouve la passion. La passion d'un homme, d'abord, qui aimait les livres plus sans doute qu'aucun chef d'État depuis Mazarin. Au lendemain de sa réélection, en 1988, son conseiller spécial, Jacques Attali, n'a pas de mal à le convaincre qu'après le Grand Louvre, l'Opéra Bastille, la Grande Arche et quelques autres grands travaux, le seul projet qui mérite encore d'être entrepris à ce titre est l'édification d'une nouvelle bibliothèque. À la vérité, tout le monde est convaincu que l'ancienne bibliothèque nationale, rue de Richelieu, ne peut plus rester en l'état. Tous les jours, la crème de l'intelligence et de la culture française, sans compter les chercheurs venus du monde entier, fait la queue de bon matin par crainte de ne pas trouver de place. Face à une demande croissante, la capacité d'accueil du site Richelieu est devenue trop limitée. Plus grave encore, peut-être, les capacités de stockage des documents arrivent à saturation. Si l'on a présent à l'esprit que la seule production française de livres s'élève en moyenne à 50 000 ouvrages par an, dont la Bibliothèque nationale a l'obligation, a la mission de tous les conserver, et que cette institution achète par ailleurs un nombre de livres à peu près équivalent de livres étrangers, on conçoit que, faute d'espace, le problème de leur stockage peut rapidement devenir ingérable. Il fallait donc impérativement faire quelque chose. Mais quoi ? En gros, deux conceptions s'affrontent avant qu'une troisième ne l'emporte. La première conception est la plus simple et à bien des égards la plus raisonnable. Elle est défendue par le patron de la Bibliothèque nationale de l'époque, qu'on appelle à ce moment-là l'administrateur général, aujourd'hui il a pris le titre de président, et dont le nom, vous le savez tous, est Emmanuel Leroy Ladurie. Cette solution consiste à construire à Paris un nouveau bâtiment, provisoirement appelé BN bis, et qui prendrait la suite chronologique de la BN. Autrement dit, celle-ci conserverait ses collections passées, tandis que les collections futures seraient conservées et consultées sur un nouveau site. Cette solution présente trois avantages. Elle résout le problème de la saturation des capacités de stockage, elle offre de nouvelles capacités d'accueil des lecteurs, et elle est peu coûteuse. Mais elle a un inconvénient. Elle ne constitue pas un grand projet, au sens où un monarque, fût-il républicain, pourrait l'entendre. Ce dernier aspect peut vous paraître secondaire, voire futile, mais détrompez-vous, c'est un aspect majeur de la question. La deuxième conception, fruit de l'imagination fertile de Jacques Attali, est proprement révolutionnaire. Il s'agit d'utiliser la nouvelle technique numérique pour créer une bibliothèque sans livres. En d'autres termes, les 11 millions de livres de papier conservés rue de Richelieu y resteraient, mais ils seraient progressivement numérisés et mis en réseau à partir d'un serveur informatique central qui serait la nouvelle Bibliothèque nationale. Tous les problèmes de capacité d'accueil seraient évidemment résolus. S'agissant des livres de papier que les éditeurs continuent de publier, ils pourraient être stockés dans des silos, en un lieu parfaitement indifférent, puisque plus personne ne viendrait les consulter. Quant aux lecteurs, ils entreraient en contact avec les livres à travers leur ordinateur, reliés au site internet de la bibliothèque. Ils n'auraient plus besoin de salle de lecture. Lorsque François Mitterrand annonce au journaliste Yves Mourousi, dans les jardins de l'Élysée, le 14 juillet 1988, qu'il a décidé la construction d'une très grande bibliothèque d'un type entièrement nouveau, je le cite, les observateurs, frappés par l'enthousiasme du président pour les technologies nouvelles, pensent que la conception de Jacques Attali l'a emporté. En réalité, la partie est loin d'être jouée. Car personne n'a relevé l'aspect profondément paradoxal, pour ne pas dire contradictoire, de la formule présidentielle. En effet, si la nouvelle bibliothèque doit être d'un type entièrement nouveau, c'est-à-dire numérique, on ne comprend pas en quoi elle devrait être très grande, puisqu'elle se réduirait à une tête de réseau informatique. En revanche, si elle doit être très grande, c'est pour accueillir des livres de papier. Mais alors, on ne voit pas en quoi elle serait d'un type entièrement nouveau. C'est cette ambiguïté fondamentale qui est à l'origine de la plupart des difficultés qu'a rencontrée par la suite la nouvelle institution. Plusieurs intellectuels de renom, familiers du site de Richelieu, vont s'emparer de cette ambiguïté pour combattre la révolution attalienne, tout en ayant l'intelligence de ne pas s'en prendre directement au modernisme technologique, afin de ne pas passer pour des attardés. Ils trouvent un autre angle d'attaque qui a l'immense mérite à leurs yeux de torpiller à la fois le projet de Jacques Attali et celui de BN bis défendu par l'administrateur général de la Bibliothèque nationale. Cette attaque, c'est ce que l'on a appelé la bataille de la césure. Elle consiste à refuser l'idée que les collections de livres de la BN puissent être géographiquement séparées en deux parties. L'une demeurant rue de Richelieu, l'autre, faute de place rue de Richelieu, investissant un nouveau site. Concrètement, le projet initialement commandé à l'architecte Perrault comportait une césure en 1945. Autrement dit, tous les livres publiés avant cette date seraient restés rue de Richelieu. Tous ceux publiés après, soit près de 4 millions de volumes sur les 11 qui composent les collections de la BN, serait installé dans le nouveau site de Tolbiac. La passion, encore la passion avec laquelle cette hypothèse a été combattue, fut d'une rare violence, au moins verbale. L'un des protagonistes les plus en vue a écrit une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer, je le cite, « un attentat épistémologique contre l'unité de l'esprit ». Rien de moins. C'était à la vérité une bien étrange querelle, car personne, à ma connaissance, n'a jamais proféré de tels anathèmes contre, par exemple, la bibliothèque de l'université d'Harvard, une des premières du monde, dont les collections sont dispersées dans 17 bâtiments séparés. J'ajoute que cette césure, qui finalement n'a pas eu lieu, puisque François Mitterrand a cédé à cette pression, se produira inéluctablement un jour. Il suffit de penser que sur le nouveau site de Tolbiac, la réserve disponible, la réserve d'espace, représente entre 25 et 30 années de production de livres. Imagine-t-on que dans 25 ou 30 ans, la France se lancera à nouveau dans un chantier aussi immense que celui des quatre tours de Perrault ? À l'évidence, non. Quand Tolbiac sera plein, on stockera ailleurs les nouveaux livres et une césure apparaîtra alors. Et dès lors que cette césure est en quelque sorte condamnée à apparaître un jour, peut-être eût-il été plus sage et certainement moins coûteux, comme l'avait dit M. Leroy-Ladurie, de l'accepter dès 1988. Mais ce projet n'a donc pas été suivi. Celui de Jacques Attali non plus, d'ailleurs, car la bataille a été remportée par ceux qui exigeaient que tous les livres fussent déménagés sur le nouveau site. Or, dès lors que l'on reconstituait une bibliothèque de livres de papier, l'idée d'une bibliothèque entièrement numérique était morte, car au regard de leurs coûts financiers respectifs, ces deux projets étaient évidemment incompatibles. C'est donc une troisième conception, plus conservatrice des traditions, qui a gagné la bataille de la Bibliothèque nationale de France, alors qu'elle n'était pas du tout favorite au départ. Comment cette nouvelle bibliothèque a-t-elle été accueillie lorsque, 10 ans plus tard, en 1998, elle a ouvert ses portes aux chercheurs ? J'ai évidemment une petite idée sur cette question, puisque c'est la date à laquelle j'ai été nommé directeur général de cet établissement, aux côtés de son président, l'écrivain et académicien Jean-Pierre Engrémy. La réponse est simple, l'ouverture et la première année qui a suivi ont été très difficiles. Et c'est là qu'après avoir évoqué les passions initiales, j'en viens à la colère des amoureux déçus. Il me faut évoquer cette colère des premiers usagers du site de Tolbiac, car elle fut vive et la presse en est faite largement l'écho. L'image, la réputation de la nouvelle bibliothèque en ont été durablement affectées. Mais mon évocation de cette colère sera assez brève, car les motifs très largement fondés qui l'ont provoquée à l'époque ont aujourd'hui aussi très largement disparu. Le premier contact avec ce nouveau lieu en bord de Seine se noua bien sûr à travers son architecture. Je ne m'étendrai pas sur ses quatre tours en forme de livre ouvert, sur son austère esplanade de bois, sur son jardin, grand comme celui du Palais Royal, enterré au fond d'un puits de lumière. Chacun en pense ce qu'il veut, selon ses goûts. Mais pour les premiers lecteurs, le site de Tolbiac, ce fut d'abord un lieu de Paris perdu au milieu d'une ZAC en chantier, puis une épreuve sportive, puisqu'il fallait grimper un rude escalier de 50 marches avant d'accéder à l'entrée, si l'on avait la chance de comprendre où se trouvait l'entrée, tant la signalétique était défaillante. Une fois à l'intérieur du bâtiment, un second parcours du combattant, nettement plus redoutable que le premier, attendait l'infortuné lecteur. Car il lui fallait affronter la nouvelle informatique de la bibliothèque. Informatique omniprésente, omnifonctionnelle, qui commandait l'entrée du lecteur, son passage par de multiples sas de contrôle et de sécurité, qui réservait sa place, puis ses livres, et enfin qui commandait sa sortie. Les concepteurs de cette informatique toute puissante avaient longuement vanté ses mérites. Mais au lendemain de l'ouverture, il fallut se rendre à l'évidence. Cela ne fonctionnait pas. On peut imaginer l'effet immédiat d'une telle défaillance. Impossibilité d'obtenir les documents demandés dans des délais normaux, perte de temps, mécontentement, voire exaspération des lecteurs et des personnels de la bibliothèque. La situation était si grave qu'il a fallu prendre une décision rare dans un établissement public de cette importance, qui est la résiliation du contrat de l'entreprise productrice des logiciels de ce système informatique, alors même qu'il s'agissait de l'une des plus réputées dans le monde. À toutes ces difficultés matérielles, objectives, je voudrais ajouter un facteur plus subjectif ou culturel qui a beaucoup joué dans les premiers pas de la nouvelle bibliothèque. Il s'agit tout simplement de l'apprentissage de la nouveauté, de la part des lecteurs comme d'ailleurs des personnels. tous ceux qui étaient habitués depuis près de 3 siècles, si je puis dire, au charme délicieusement artisanal des salles de la rue de Richelieu, ont subi de plein fouet le choc de la modernité en pénétrant dans le temple de Dominique Perrault. Modernité architecturale, modernité informatique, modernité sociale aussi, tant le lecteur a dû nouer un nouveau type de relation avec les bibliothécaires et oublier le climat quasi familial d'autrefois rue de Richelieu. Pour en terminer avec les critiques, il est indispensable d'évoquer l'aspect financier de l'opération, qui a lui aussi suscité de vives polémiques. Je m'exprimerai en francs, puisque cette nouvelle bibliothèque est antérieure au règne de l'euro. Elle a coûté 8 milliards de francs, se répartissant en 5 pour le bâtiment et 3 pour les équipements. Ce chiffre de 8 milliards de francs soulève 2 questions. Est-ce plus que le devis initial ? À peu de choses près, non. La Cour des comptes n'a relevé qu'un dépassement de 8%, ce qui est relativement peu pour un chantier aussi immense. Le budget a donc été globalement tenu. Seconde question, cette somme est-elle en soi excessive ? Pour ceux qui ne sont pas très familiers des grosses sommes, je dirais que 8 milliards, c'est 4 fois plus que le dernier grand hôpital construit à Paris, l'hôpital européen Georges Pompidou, mais c'est 2 fois moins que le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Est-ce donc excessif ? Mon avis est que la réponse est oui. Et ce, pour 2 raisons. La première est que, comme je l'ai dit, la solution de construire une BN bis qui eût assuré la continuité de la BN de la rue de Richelieu pour ce qui concerne les ouvrages des années à venir eût été plus modeste et donc nettement moins coûteuse. La seconde raison est plus politique, entre guillemets. Elle consiste à souligner qu'au moment où la nouvelle Bibliothèque nationale de France a été décidée, la France avait au moins autant besoin de rénover et d'accroître la capacité des bibliothèques universitaires que de reconstruire sa bibliothèque nationale. En donnant une forte priorité à celle-ci sur celle-là, le gouvernement a fait un choix centralisateur, jacobin, parisien, qui n'était pas, à mes yeux, le plus conforme à l'intérêt général. Une autre facette du problème financier est celle du coût de fonctionnement du nouvel établissement. Là encore, on peut voir les choses sous 2 angles différents. Premier angle, ce coût de fonctionnement, qui est d'un peu plus d'1 milliard de francs par an, est du même ordre de grandeur que celui de la British Library, l'équivalent britannique de notre bibliothèque nationale. C'est avec la British Library que je fais la comparaison, car sur le plan de ses dimensions, des volumes qu'elle abrite, des personnels qu'elle emploie, les 2 institutions sont très comparables, et de plus, elle vient elle aussi d'être reconstruite. Donc, des coûts de fonctionnement comparables à Paris et à Londres. Nous n'avons donc pas fait plus mal que nos voisins, ce qui est un motif de satisfaction. Mais si l'on regarde la question sous un autre angle, on constate que le coût de fonctionnement de la nouvelle Bibliothèque nationale est presque 3 fois supérieur à celui de l'ancienne. Certes, grâce notamment aux technologies numériques, elle rend davantage de services, mais rend-elle 3 fois plus de services ? Il serait sans doute présomptueux de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, il est légitime de se demander s'il était indispensable d'accroître à ce point la charge annuelle du budget du ministère de la Culture. Voilà donc pour les motifs de colère initiale ou d'interrogation. Mais 5 ans ont passé depuis l'ouverture et une appréciation apaisée peut désormais être portée. Après la passion et la colère, voici donc venu le temps de la sérénité. À ce titre, je voudrais d'abord dire que les défauts initiaux, les péchés de jeunesse de la nouvelle bibliothèque, ceux qui ont tant fait parler d'elle à son détriment ont été combattus, corrigés, effacés autant que faire se pouvait. Par exemple, la nouvelle avenue de France qui vient d'être achevée et qui borde le côté sud de l'esplanade de la bibliothèque de Tolbiac permet d'accéder à cette bibliothèque sans avoir à monter le redoutable emmarchement de la façade nord du côté de la Seine. Autre exemple, plus important, l'informatique qui ne fonctionnait pas, alors qu'elle constitue la colonne vertébrale du nouvel établissement, a été profondément remaniée et donne aujourd'hui pleinement satisfaction. Alors bien sûr, si les très sérieuses difficultés initiales ont été surmontées, rien ni personne n'a pu ni ne pourra jamais revenir sur certains aspects structurels du bâtiment de Tolbiac. Il est définitivement situé dans le 13e arrondissement et non au centre de Paris. Il fait 300 mètres de longueur et tous ceux qui n'ont plus 20 ans trouvent parfois que le travail de l'esprit accompli en ces lieux se double d'un exercice physique dont ils avaient peut-être un peu perdu l'habitude. Mais passons sur tout cela pour aller à l'essentiel. Car si la sérénité s'est installée sur le nouveau site de Tolbiac, c'est que la Bibliothèque nationale de France dispose de plusieurs atouts majeurs. Pour limiter mon propos, j'en citerai quatre. D'abord, puisqu'il faut être impartial et savoir reconnaître le bon côté des choses que l'on a soi-même critiquées, le rassemblement en un seul lieu de tous les livres imprimés et de toutes les collections de périodiques est une remarquable opportunité offerte aux chercheurs. J'ai dit qu'il eût été préférable pour les finances publiques que ce projet soit moins grandiose et que l'on accepte une césure géographique entre les livres des siècles passés et les ouvrages contemporains et futurs. Mais puisque l'on a fait le choix inverse, il faut reconnaître qu'il apporte à l'usager une incomparable facilité de travail. Autrefois, du temps de la rue de Richelieu, les livres étaient certes rassemblés sur le même site, mais les périodiques ont longtemps été conservés dans des bâtiments annexes situés à Versailles. Or, il est fréquent qu'un chercheur ait besoin, sur le même sujet, d'accéder à des livres et à des journaux ou à des revues. Leur conservation aujourd'hui sur le même site de Tolbiac est un atout précieux. Dans la même catégorie des atouts physiques de la nouvelle bibliothèque, il faut également citer sa capacité d'accueil du public. Comme vous le savez certainement, il existe deux étages, deux niveaux de travail dans le bâtiment de Tolbiac. L'étage inférieur, que l'on appelle le rez-de-jardin, est réservé aux chercheurs qui n'accèdent à ces salles que sur accréditation. Le nombre de places offertes, 1900, est environ le triple de celles dont disposait l'ancien site de la rue de Richelieu. Cette multiplication par trois des capacités d'accueil est évidemment un élément de confort très appréciable, car il est rare désormais d'avoir à attendre pour accéder à une place de recherche, et ce d'autant plus que l'on peut désormais réserver sa place et les documents que l'on souhaite consulter depuis son domicile via le site internet de la bibliothèque. Quant à l'étage supérieur du bâtiment, le haut de jardin, c'est en quelque sorte une nouveauté conceptuelle, puisqu'il s'agit d'un vaste espace de 1650 places qui est ouvert au grand public, alors que, comme vous le savez, ce n'était pas le cas du site Richelieu. L'idée initiale était que des amateurs éclairés, voire monsieur et madame tout le monde, côtoient au sein de la Bibliothèque nationale l'aristocratie du savoir, c'est-à-dire les chercheurs, et que, à leur contact, ils prennent goût aux choses les plus élevées de l'esprit. Cette idée, quelque peu abstraite, pour ne pas dire fumeuse, n'a guère prouvé jusqu'à présent sa fécondité. En revanche, le public dispose désormais d'un espace remarquablement servi par plus de 300 000 livres en libre accès et dont tous les usagers vantent l'excellente ambiance de travail. Les étudiants parisiens, qui manquent cruellement d'espace de cette nature, sont évidemment les plus nombreux à en profiter. J'ajoute, car il serait inéquitable de les passer sous silence, qu'en ce même haut de jardin, un espace est réservé à des expositions autour des collections de la Bibliothèque nationale. Le grand public n'a, hélas, pas encore bien enregistré l'idée qu'un des hauts lieux d'exposition à Paris est désormais la Bibliothèque nationale de France. C'est dommage, car, pour ne citer que quelques exemples, l'année dernière, l'exposition des manuscrits et destins de Victor Hugo aurait mérité le détour, et même le voyage, comme on dit dans les bons guides. La même remarque vaut d'ailleurs pour l'exposition des photographies de Jacques-Henri Lartigue qui a lieu en ce moment même. J'ai bon espoir que maintenant que l'aménagement du quartier de Tolbiac est presque achevé, qu'il est bien desservi par les transports en commun et qu'avec ses cafés, ses terrasses, ses restaurants, ses jardins, il a pris une tournure beaucoup plus sympathique qu'autrefois, le public prendra l'habitude de se rendre à la BNF pour admirer ses expositions comme on se rend à Orsay ou à l'Orangerie. Après avoir vanté les mérites des outils matériels, physiques de la Bibliothèque nationale de France, je voudrais évoquer ceux de ses outils virtuels, c'est-à-dire essentiellement son catalogue et sa bibliothèque numérique. Le catalogue d'une bibliothèque est un outil technique, obscur, peut-être quelque peu rébarbatif pour ceux qui n'en ont pas la pratique habituelle. Mais c'est aussi l'outil essentiel du chercheur. Sans un bon catalogue, une grande bibliothèque est muette ou aveugle, en tout cas inutilisable. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que le nouveau catalogue entièrement informatisé de la BNF est une des plus belles réussites de ce projet. Le mérite en revient en premier lieu à M. Leroy Ladurie, qui, avant même que le président Mitterrand ne prenne sa décision d'engager le chantier de la BNF, avait lancé celui de l'informatisation de son catalogue. Il faut citer aussi, bien sûr, toutes les équipes de conservateurs, de bibliothécaires, qui ont traduit les fiches Bristol d'autrefois en langage informatique, en s'efforçant de rendre homogènes les présentations et les mots-clés afin de faciliter les recherches automatisées d'aujourd'hui. Ce fut un immense travail qui a duré plus de 10 ans. À ceux qui s'étonneraient d'une telle durée, je rappellerai que le catalogue papier, connu sous le nom de catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, a été commencé en 1897 et s'est achevé en 1981, c'est-à-dire 84 années plus tard. S'il est un travail de fourmi, c'est bien celui qui consiste à cataloguer environ 8 millions de fiches en veillant constamment à la cohérence de leurs références thématiques afin que l'univers exclusivement rationnel et non pas intuitif de l'informatique sache les reconnaître, les classer, les sélectionner au gré de l'immense variété des demandes des usagers. Le résultat est d'autant plus remarquable que désormais, par les vertus d'Internet, chacun peut consulter gratuitement ce catalogue qui est l'un des plus riches du monde depuis son domicile ou son lieu de travail. La bibliothèque numérique de la BNF mérite le même éloge. J'ai pourtant dit au début de mon propos que l'idée de Jacques Attali de transformer la Bibliothèque nationale en une bibliothèque numérique n'avait finalement pas été retenue. C'est exact, mais il est cependant resté comme un prototype ou un échantillon. Vaste échantillon, à vrai dire, puisque la Bibliothèque numérique de la BNF comporte environ 50 000 ouvrages, notamment tous les grands classiques de la littérature française, une très belle collection d'ouvrages sur la Révolution française, et de nombreux documents, estampes, photographies, cartes, etc. Cela peut paraître modeste par rapport aux 11 millions de volumes conservés à Tolbiac, et c'est toute la différence avec le projet Attali. Il n'en reste pas moins que c'est là encore une des plus importantes bibliothèques virtuelles du monde, consultable elle aussi gratuitement sur Internet. Monsieur le Président, je voudrais achever mon propos par où je l'ai commencé. La Bibliothèque nationale de France est l'héritière de 5 à 6 siècles d'histoire du livre imprimé, et plus encore si l'on songe aux manuscrits des moines copistes. Un moment, avec l'invention de la technique de numérisation et la naissance d'Internet, on a pu croire que le livre de papier imprimé allait disparaître, comme la machine à vapeur fut écartée de l'aventure du progrès par la découverte de l'énergie électrique. Avec beaucoup de ceux qui ont un peu réfléchi à cette question, je suis convaincu du contraire. Je crois que le livre de papier et les textes numérisés ne remplissent pas la même fonction et ne jouent pas entre les mains des hommes le même rôle dans leur rapport au temps. Internet et l'outil numérique sont des instruments de travail qui répondent à des exigences d'efficacité et de rapidité. Ils sont les alliés des gens pressés et offre à ce titre de remarquables prestations. Le livre imprimé a une toute autre raison d'être. Il est d'abord là pour laisser ses pages ouvertes à la réflexion, à la méditation, au temps lent des poètes et des philosophes. Si bien que tant que notre monde ne sera pas ravagé, totalement ravagé, par la culture du zapping et de la productivité, et qu'il restera quelques amateurs de sagesse, le livre de papier ne disparaîtra pas. Tout le défi à venir de la Bibliothèque nationale de France sera de gagner sur ces deux tableaux qui forment comme les deux composantes de la civilisation moderne. D'une part, un outil numérique qui met dans l'instant à la disposition du monde entier des stocks immenses de savoir, et d'autre part, le livre de Gutenberg qui est le vecteur, à mes yeux, irremplaçable de la raison occidentale. Je vous remercie. Thank you.
C'était François Stas, ancien directeur général de la Bibliothèque nationale de France, devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 19 mai 2003. Monsieur Stas présentait une communication sur la BNF, Bibliothèque nationale de France, vieille dame, grande dame. Je vous rappelle que les séances de l'Académie sont publiques le lundi après-midi à 15h au Palais de l'Institut de France. Et pour plus d'informations, connectez-vous sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Retrouvez également les séances et principaux rendez-vous et travaux de l'Académie dans le monde entier grâce à Canal Académie, la première radio académique francophone mondiale.
Vous écoutez Canal Académie.